grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, nous nous intéressons à quelques idées reçues sur la grossesse. Parmi nos invités, deux auteurs qui défendent une grossesse féministe, loin des clichés sexistes et des injonctions culpabilisantes. Nous verrons ce qu'est concrètement une grossesse féministe sous le regard d'une gynécologue obstétricienne. Nos invités vous délivreront des informations pratiques sur ce qui attend vraiment les futurs parents pendant les 9 mois de grossesse réglementaire. Avec une interrogation centrale, peut-on rester féministe au cours de cette période de bouleversement biologique, physique et psychologique? Pour nous accompagner ce matin, les auteurs du guide féministe de la grossesse, Elisa Rigoulet et Pila Intika, et la gynécologue obstétricienne Daniel Assoun. Et vous, quelles sont les idées reçues sur la grossesse qui vous agacent un peu beaucoup, passionnément? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, qui porte chaque semaine un regard singulier sur notre société. Quelle est la une du 1 cette semaine?
Et on s'intéresse aux privatisations, on se demande si ça veut dire forcément brader les bijoux de famille.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Elisa Rigoulet.
Bonjour.
Bonjour Pila Intika, vous publiez Bonjour. Chez Marabout le guide féministe de la grossesse. Bonjour docteur Daniel Assoun.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne et vous avez collaboré aux recherches menées par l'INSERM sur les échecs de contraception et sur les représentations de la ménopause. Comment est né ce guide, Pila Intika et Elisa Rigoulet? Et pourquoi un guide féministe de la grossesse?
Ce guide est né un petit peu de notre expérience personnelle, en fait, parce qu'on a été enceinte toutes les deux en même temps, Pila pour son deuxième enfant et moi pour mon premier. Donc, et on s'est heurté un petit peu à la littérature qu'il y a sur le marché concernant la grossesse et qui nous a paru quelque peu étroite et un petit peu assez marquée par des clichés et des stéréotypes qui nous ont un peu agacés.
Alors vous trouviez que la majorité des livres sur la grossesse étaient infantilisants
Oui, souvent le ton est assez nié en fait dans les livres, enfin dans la majorité des ouvrages qu'on trouve sur le marché. Et aussi, enfin nous, ce qui nous a marqué, c'était aussi le fait que la plupart des livres sur la grossesse parlent de la grossesse que d'un point de vue physique. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le point de vue psychologique et voilà.
Et vous parlez même de vision naïve et débilitante de la future mère dans la plupart de ces livres, Elisa Rigoulet.
Oui, parce qu'on s'est dit, en fait, on s'est dit que je pense que la grossesse, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup des symptômes physiques liés à la grossesse. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, quand on lit les livres de grossesse, des nausées, des effets des hormones, des problèmes qu'on peut avoir, de dos, de que sais-je. Et en fait, donc on parle aussi comme de la grossesse comme d'une sorte de handicap physique, enfin de quelque chose qui va nous amoindrir la femme physiquement pendant une certaine période. Et je crois que il y a une sorte d'extension intellectuelle de cette dimension-là, comme si elle était aussi un petit peu amoindrie intellectuellement pendant cette période-là, et que du coup, elle perdait un peu son cerveau, quoi. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc oui, les livres parlent souvent aux femmes enceintes, mais d'ailleurs pas que les livres. J'y crois qu'il y a quelque chose comme ça, une sorte de on parle un peu aux femmes enceintes comme si elles étaient un petit peu débiles, un peu naïves, un peu fragiles aussi. Ça renforce cette vision de la femme fragile. Qui est...
C'est pour cela que vous n'aimez pas l'expression tomber enceinte?
Je sais pas si on l'aime pas.
Bah, je l'ai lu dans votre livre.
Non, parce qu'on cite, c'est René Grosart qui a dit que d'abord qu'elle aimait pas l'expression tomber enceinte. Enfin, elle en parle d'ailleurs. Mais oui, je sais pas si on l'aime pas. Mais oui, c'est vrai qu'enfin, en tout cas, même au niveau du langage, il y a des choses qui sont effectivement des verbes qui sont employés comme tomber enceinte, qui sont effectivement clairement de l'ordre de la chute.
Docteur Daniel Assoun, quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus sur la grossesse?
Ben, je pense qu'une des idées reçues, ça va peut-être vous paraître paradoxal pour un médecin, c'est de dire que la grossesse est une maladie. La grossesse n'est pas une maladie. Pour un certain nombre de femmes, c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes médicaux qu'il est nécessaire de prendre en charge. Mais pour la majorité d'entre elles quand même, ce n'est pas une maladie. Les femmes ne sont pas fragiles. Pour
dans notre pays, elles sont souvent en bonne santé, bien nourries. Et donc, c'est un état, certes, qu'elles ont choisi parfois ou pas choisi, d'ailleurs, ça dépend. Mais en tout cas, ce n'est pas une maladie. Et effectivement, cette idée des femmes fragiles, moi, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup.
Quel regard vous portez sur la démarche de nos deux invités, Pila Ntika et Lisa Rigoulet ?
Alors, je ne sais pas bien ce que c'est qu'une grossesse féministe, moi. Je me rends pas bien compte. Pour moi, le féminisme, c'est un peu, effectivement, enfin, c'est l'égalité homme-femme, en tout cas, la revendication d'une égalité homme-femme. Donc, moi, j'aurais plutôt envie de dire, être féministe, une grossesse féministe, c'est plutôt avoir des enfants de façon féministe, et ça, c'est vrai pour les hommes aussi. À savoir que les études sociologiques montrent qu'effectivement, les hommes s'occupent plus des enfants, mais pas beaucoup plus, par exemple, des charges ménagères. Et là, vraiment, il y aura un vrai boulot à faire pour qu'ils s'occupent aussi des charges ménagères et des enfants. Et que l'égalité, là, se joue à ce niveau-là aussi. Donc, je crois que ce serait ça, être féministe. La grossesse, je vois pas bien, mais pourquoi pas.
Ça veut dire quoi exactement, grossesse féministe, Pila Ntika?
Alors déjà, c'est pas la grossesse qui est féministe, c'est le guide.
C'est le guide, c'est enfin, le guide qui est féministe. Par extension, je parle de grossesse féministe.
Voilà, voilà, mais ça, enfin, en vrai, ça veut rien dire. Nous, on voulait, enfin, c'est le point de vue qu'on a pris pour étudier cette expérience qu'on trouve qui est aussi psychologique et sociale et pas que physique. Et après, on voulait rendre l'égalité entre hommes et femmes ou enfin la femme enceinte et son conjoint ou conjointe dans cette expérience. Parce que en fait, les conjoints, les partenaires sont présents pendant la grossesse. Ils viennent aux échographies, ils viennent au rendez-vous à la maternité, etc. Mais on leur pose assez rarement des questions en fait sur leurs sentiments, sur leurs émotions, comment ils se sentent pendant la grossesse, etc. Donc nous, dans ce livre, par exemple, chaque mois, on a mis, on a écrit des questions qui peut sembler un peu débile, mais pour nous c'était important de écrire des questions pour faciliter la communication entre la femme enceinte et son conjoint pendant la grossesse.
Julien Bisson.
Oui, moi je participe totalement de cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une absence de considération souvent des pères pendant la grossesse. Quand ma compagne est tombée enceinte, je me suis renseigné pour voir s'il y avait des livres, par exemple sur les pères qui attendent des enfants. Il y a très très peu de livres. Dans ces livres, c'est souvent très infantilisant. Et puis de façon plus large, la culture, et je pense par exemple aux films, il y a des films de grossesse, c'est presque un genre cinématographique en soi, le film de grossesse, et on pourra peut-être en revenir sur les idées reçues que ces films continuent d'entretenir, mais il y a notamment dans ces films une construction sociale de la paternité qui nous dit que l'homme est absent, que l'homme a peur, que l'homme doit avoir un phénomène de fuite dès qu'il apprend que sa compagne est enceinte. Et que là aussi, sur cette question-là, il y a une construction sociale de cette approche de la paternité qui est, à mon avis, totalement à revoir. Pila Ntika.
Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre aussi.
Et vous débutez d'ailleurs votre guide de féministe avec un chapitre intitulé « Choisir d'être père » avec cette question « À quoi donc peut bien servir un père ?» Elisa Rigoulet.
Oui, parce que c'est vrai que, enfin, nous, alors ça vient encore d'une expérience personnelle, parce que c'est le point de départ de tout ça, mais c'est nous dans nos cas précisément, ce sont nos partenaires qui ont poussé énormément à avoir des enfants, et donc le désir aussi de grossesse est venu aussi par le biais de futurs pères. Donc et on pense. Que, en plus, je pense qu'il y a quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui à gérer pour les futurs pères, c'est qu'à la fois, ils n'ont pas encore une place socialement dans le process qui est très, très, très égalitaire, enfin, très clair, et en même temps, ils sont très conviés à être là quand même. C'est-à-dire qu'un père qui n'est pas là, dans la grossesse de sa femme, c'est quand même assez mal vu. C'est-à-dire, si tu viens pas au rendez-vous de suivi, si tu viens pas, c'est relativement mal vu, donc t'es quand même assez convié à être là, mais en même temps, t'as une place qui est quand même assez pas encore très définie, quoi.
Docteur Daniel Assoun, sur la place des pères dans les consultations.
Alors, la place des pères dans les consultations. Alors, moi, je suis très étonnée parce que, bon, donc ça fait longtemps que je suis gynécologue et je l'ai trouvé plus présent il y a un certain nombre d'années. Je les vois très peu en consultation, c'est vrai.
Étonnant.
En même temps, ça ne me gêne pas plus que ça, pour dire la vérité.
Pourquoi ?
Après tout, c'est une consultation gynécologique. Les femmes, elles ont un lieu, là, de parole, où elles peuvent dire un certain nombre de choses. Il arrive qu'ils viennent, effectivement, par exemple, en début de grossesse. Hein, et on sent parfois le conflit. Elle veut, il veut pas. pas, il veut, elle veut pas. Et c'est ça aussi qui se joue maintenant, c'est-à-dire ce désir de grossesse qui n'est pas seulement, contrairement à ce qu'on a pu croire, et ça je pense que ça fait fort longtemps que c'est comme ça, le désir de la femme, mais aussi le désir de l'homme. Et parfois elle n'en veut pas tant que ça, d'ailleurs, de cet enfant. Et donc se joue parfois quelque chose. Alors ils viennent ensemble pour que, voilà, pour que les deux paroles soient entendues. Et ça, je trouve ça souvent intéressant. Mais au cours de la grossesse, c'est vrai qu'ils sont pas là très fréquemment et j'en fais pas non plus un drame en soi. Hein. Quant à la place, mais c'est à eux de la prendre. Hein. Bonjour. C'est leur boulot.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous habitez Paris. Alors vous, quand vous étiez enceinte de votre premier enfant, tout le monde s'est permis à vous donner un tas d'avis.
Oui, bah alors moi je suis encore enceinte, je suis au cours de mon 8e mois de mon premier enfant. Et c'est vrai que les premiers mois, vous annoncez que vous êtes enceinte, vous avez une pluie de préjugés qui vous tombe dessus. Le premier conseil qu'on m'a donné étant de ne pas prendre de poids. Mmh. Et du coup, ça m'avait extrêmement choquée. J'étais là, je faisais, enfin, je ferai ce que je peux et comme je peux. Mais du coup, j'avais trouvé ce conseil un peu choquant. Voilà.
Quelles sont les idées reçues que vous avez le plus entendues au cours de cette grossesse? Vous en êtes là au 8e mois?
Tu es enceinte, tu es pas malade. Mmh. Voilà, c'était vraiment le conseil que j'ai le plus entendu. Après, ça m'a permis quand même d'avoir une grossesse assez épanouie. Moi, j'ai continué beaucoup à faire du sport. Alors du coup, du sport prénatal, vraiment spécifique pour les femmes enceintes. Mais j'ai continué à vivre ma vie tout à fait normalement. Et j'ai vraiment eu très peu de maux de grossesse. Donc... Une grossesse assez épanouie, je pense que c'est un des conseils, je vous entendais en début d'émission en parler, qui finalement, moi, m'a permis d'avoir une grossesse épanouie.
Vous avez donc vécu une grossesse plutôt idyllique. Est-ce que vous avez reçu un tas d'injonctions dans votre entourage qui pouvaient être un peu culpabilisantes?
Non, c'est surtout sur l'après, en fait. Mmh. On vous donne beaucoup de conseils sur comment élever votre enfant après. Par exemple, vous avez des personnes qui vous disent il faut absolument garder votre bébé avec vous pendant 6 mois dans votre chambre. Certains vous disent non, mais au bout d'une semaine, il faut le mettre dans sa chambre. Enfin, voilà, vous avez plein de conseils contradictoires qui tombent et c'est surtout pour l'après, l'après-grossesse. Oui, pour la grossesse en elle-même, moins.
Vous nous avez dit, Orantène, que vous avez voulu partir en vacances au Maroc, au soleil, et que vous avez reçu de votre entourage plein d'avis très négatifs, des gens qui sont permis de s'immiscer dans votre vie de femme enceinte.
Exactement, ils m'ont dit, mais tu te rends pas compte, tu peux pas prendre l'avion, et je suis partie quand même, parce que voilà, c'était mon choix, et ça a posé vraiment aucun souci. Mais c'est vrai que beaucoup de mes copines, dont certaines enceintes également, au même moment, me disent, mais tu ne peux pas prendre l'avion, tu ne dois pas prendre l'avion, tu vas avoir plein de problèmes, ils vont pas te laisser rentrer. Il y en a quand même une qui m'a dit, tu vas rester bloqué au Maroc, imagine tu accouches là-bas. Enfin, vraiment des conseils alarmants et finalement, il m'est rien arrivé et j'ai eu aucun souci à partir en vacances, même à 7 mois de grossesse. Voilà, c'était pas un souci.
Votre regard sur le témoignage de Valérie, Elisa Rigoulet?
Oui, bah c'est drôle en fait. C'est pas drôle pour la personne qui le vit malheureusement sur le moment, mais c'est vrai que c'est très comme ça, ouais. C'est
sur l'entourage qui donne des tas de conseils, peut culpabiliser aussi par ses conseils.
Ah ben ça culpabilise en permanence, puisque de toute façon quoi que tu fasses, tu fais jamais la bonne chose. Enfin c'est jamais la bonne chose que tu fais. Donc.
Docteur Hassoun.
Alors d'une part deux choses. D'une part, ça rejoint effectivement les contraintes faites aux femmes en permanence. C'est-à-dire c'est comme si elles savaient pas. Ouais. Elles ne savaient pas, mais pourquoi ? Elles savent. Hein ? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que aucune des choses qu'a dit notre auditrice ne correspond à des contre-indications médicales. Rien. On peut prendre l'avion, il suffit de mettre des bas de contention, c'est quand même pas très compliqué. On peut faire du sport, tous les sports. On n'a pas besoin de faire que des sports prénataux. Tous les sports sont admissibles à partir du moment où on se sent bien, où on sent pas des choses, des contractions, etc. Ça dépend du terme aussi. Donc, en fait, ça ne repose sur rien scientifiquement. Et puis, en plus, il y a des modes. Ça, c'est très clair. On a vu traverser des modes comme ça. Fallait pas prendre de poids, puis il fallait prendre du poids, puis il fallait plus reprendre du poids. Alors que l'histoire du poids aussi, c'est une contrainte impossible imposée aux femmes. En fait, il n'y a pas de problème à prendre du poids. Après, évidemment, prendre 20 kilos, on se sent pas très bien. Après, il y a des problèmes médicaux qui surviennent effectivement dans certains cas.
Mais donc, diabète gestationnel, par exemple.
Comment ?
Le diabète gestationnel.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une pathologie. Ouais. Je sors là de la pathologie pour lequel, effectivement, un certain nombre de précautions indéniablement sont à prendre. Et on peut voyager pendant la grossesse.
Merci beaucoup, Valérie. Je vous souhaite un bon 9e mois. Hein. Merci beaucoup d'avoir témoigné. N'hésitez pas à réagir, à témoigner sur votre grossesse. Dites-nous le décalage entre la réalité et ce que vous imaginiez. Et puis, là, évidemment, vous nous dites un petit peu si vous avez reçu des injonctions culpabilisantes au cours de cette grossesse. 01 45 24 7000. N'hésitez pas à nous contacter également sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove et c'est réalisé par Claire Destacan.
Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint. Je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer ces idées loufoques depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises. Elle a des envies balèzes. Moi, je suis aux petits soins, je me défonce en huit pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Le soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses pelotes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre. Tout le temps, je lui dis qu'elle est belle, comme un fruit trop mûr, elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est, moi aussi je débloque, depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles, quand je rentre dans la chambre du petit rossignol. Qu'elle couve, c'est que son petit bonhomme, qu'arrive en décembre, elle le protège comme une louve, même le chat pépère, elle en dit du mal, sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Quand je promène mes mains l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis, t'es un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque.
Un titre de circonstance, Renaud en cloque.
Arrêtez de vous crisper comme ça que j'examine votre col.
Ah, je suis pas crispée, j'ai mal.
Ah ben, vous n'avez pas fini d'avoir mal.
Grand Bien Vous Fasse.
Vous avez pas appris des trucs pour gérer la douleur ?
Non.
Sur France Inter.
10h25 et on s'intéresse ce matin à quelques idées reçues sur la grossesse.
Non, non, c'est juste que j'ai pas le droit, j'oublie toujours, mais je suis comme toutes les mamans, évidemment, vous vous doutez. C'est pas parce que je suis connue que je dérange à la règle. Hein. Je suis sous secret maternel, moi aussi, quoi. Voilà, Ou de rester évasive. Ça, on a le droit. Rester évasive. Ah oui, bien sûr, on a juste, le droit de dire trois phrases, quand même, aux suivantes, pour que ça ait l'air vrai, quoi. Ils nous ont laissé une sorte de dérogation pour trois expressions, mais c'est du mot pour mot, donc faut pas que je me plante. Alors, attends, les trois phrases qu'on a le droit de dire, c'est... Ouais, ça y est. Alors, le premier truc, c'est... La grossesse,
ouais, c'est un petit peu long, surtout vers la fin.
Ah. Le deuxième, c'est
la césarienne. Ouais, ça tire un petit peu, je te cache pas.
Avec une variante pour l'épisio. Et la dernière, c'est... Ah oui, la péridurale.
Ça fait pas mal.
Voilà. Les trois seuls trucs qu'on a le droit de communiquer, dis donc. Incroyable. Tout le reste.
Elisa Rigoulet et Pilane Tika, vous publiez un guide féministe de la grossesse. Vous êtes d'accord avec Florence Foresti?
Oui, oui, c'est vrai que je pense qu'il y a, aussi quelque chose de... Je pense que c'est un sujet dont on parle socialement peu et mal. C'est-à-dire qu'on en parle de manière comme une expérience très linéaire, parce que c'est quelque chose de l'ordre... C'est une expérience la plus commune au monde. Enfin, je veux dire, tout le monde beaucoup, fait des enfants et tout le monde accouche. Donc, on en parle de manière très linéaire et on en parle toujours de la même manière et de manière très édulcorée, parce qu'en général, bah, ça se passe bien. Heureusement, dans nos pays occidentaux, on s'en sort à peu près en accouchant. Et voilà, et ça se limite à ça.
Docteur Daniela Soun, gynécologue obstétricienne.
Je crois qu'il faut accepter de dire qu'il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes, pour lesquelles ce n'est pas un état agréable. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne veulent pas d'enfants. Elles veulent un enfant, mais elles n'ont pas envie d'être enceintes. Et je pense qu'il faut accepter ça et puis laisser les femmes le dire, autoriser les femmes à le dire.
Clémence va dans votre sens. L'idée que c'est un moment merveilleux, que ce n'est pas une maladie, alors qu'il y a quand même pas mal de désagréments et qu'on est très diminué, pour moi, c'est une idée reçue. Rose nous dit « Ma grossesse m'a rendue féministe. Je me suis rendu compte de toutes les difficultés de la femme dans son travail. J'ai appris par moi-même tout ce qui se passait dans mon corps. J'ai dû poser beaucoup de questions au corps médical et on me disait que j'en posais trop depuis ma grossesse. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à faire pour les femmes dans la société. Congé paternel, durée du congé, etc. etc. » Elisa Rigoulet.
Oui, alors bah ça c'est oui, enfin c'est énorme. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de féminisme par rapport à la grossesse justement au début d'émission, et je pense que on parlait de justement de l'égalité entre les parents ensuite pour élever un enfant. Je pense que justement si on considérait plus l'égalité aussi au moment de la grossesse, on aurait peut-être moins de difficultés aussi à vivre cette égalité après. Et bon là la loi n'est pas du tout en France, en tout cas à notre avantage, parce qu'effectivement le congé paternité de 11 jours qui est encore facultatif. C'est quand même catastrophique, ça c'est certain. Et voir des pères qui repartent au travail 10 jours après que leur femme ait accouché. Et donc en fait, ça crée forcément, ça place forcément la mère dans le rôle de la spécialiste. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, elle est la spécialiste forcément de son enfant, du changement de couche, du fait de le nourrir, de la spécialiste des laits, etc. Donc ça crée une inégalité qui est profonde, ça c'est sûr.
Comment s'est passé votre premier mois de grossesse, Elisa Rigoulet? Est-ce que ça a été un mois pétri d'angoisse? Au secours, je vais devenir mère, on va devenir parent?
Alors non, pas trop. Moi, j'ai été très angoissée avant de tomber enceinte.
Ah, vous avez dit tomber enceinte?
J'ai dit tomber enceinte, ouais. voilà. Mais non, j'ai été angoissée. J'ai mis du temps. Ça a été un processus un peu long pour moi de me dire, c'est maintenant, je vais avoir un enfant maintenant, etc. Ça a été un process un peu. J'ai toujours eu l'impression que ça allait modifier ma vie à jamais. Donc
Quel type d'angoisse?
Que ça allait changer tout, que ça allait changer ma vie professionnelle, ma vie sociale, que ça allait être quelque chose qui allait me mettre des limites, un empêchement à un développement social, professionnel, etc. Donc c'était surtout ça, ouais.
Et vous, Pilane Tika, ce premier mois de grossesse?
Moi aussi, je me suis posé vachement de questions, hein, ça c'est sûr. Après, on a beaucoup discuté avec mon mari à ce moment-là sur tout ce qui va se passer, etc. Moi, par contre, comme Elisa aussi, là, il y a un tabou dont j'aimerais bien parler. Moi, j'ai fait une fausse couche, et Elisa aussi. Et en fait, là, ça m'a permis de prendre un peu plus de recul, du coup, de me poser la question, est-ce que je veux vraiment un enfant? Du coup, pour la deuxième fois, j'étais beaucoup plus prête, en fait.
Au deuxième mois, vous me corrigerez, docteur Daniela Soun, une femme sur quatre fait une fausse couche, hein, c'est ça,
c'est sur les chiffres. Il y a énormément de fausses couches. Sur 100 conceptions, il y en a que 30 qui arrivent à terme. Donc il y a des fausses couches très précoces, très fréquentes, c'est vrai. Jusqu'à deux mois, c'est vrai qu'il y a ce risque de fausses couches.
Est-ce qu'on sous-estime l'impact psychologique de ces fausses couches?
Ah, je pense qu'on les sous-estime. C'est pas parce que quelque chose est fréquent qu'il n'est pas traumatisant. Donc, d'autant plus qu'on leur dit pas assez après une fausse couche que c'est un événement fréquent qui n'a pas de conséquences pour la suite et que ça ne va pas empêcher d'être enceinte et d'avoir une grossesse normale ensuite. Mais je pense qu'on le dit pas suffisamment.
Vous estimez que parfois les blogs et forums qui évoquent les fausses couches infantilisent les femmes ou minimisent trop cet événement, Elisa Rigoulet?
Oui, alors ça concerne pas que la fausse couche, ça concerne tous les sujets médicaux de manière générale, mais sociaux, etc. Mais c'est vrai que je parle de cette expérience-là parce que moi je l'ai vécue et que faute d'avoir des informations ou de je me suis retrouvée dans un processus un peu voilà de un peu compliqué de on sait pas vraiment si on voit pas de cœur mais on sait pas trop mais on sait pas enfin voilà moi ça a été un processus un peu comme ça avec des avis un peu différents, des attentes, etc. Et donc je suis allée sur internet et oui c'est un véritable cauchemar. Oui, c'est un cauchemar
pourquoi
bah parce que on y trouve des bêtises absolues, enfin donc il y a pas d'informations réelles, et deux c'est un monde effectivement de jeunes parents ou jeunes mamans qui rapportent des informations de manière complètement sans aucune source claire, et puis de manière complètement débile, avec un vocabulaire débile, infantilisant. Donc les gynécos sont des gigi, la pilule c'est une lulu, c'est complètement débile.
Docteur Hassoun, que sait-on vraiment sur les causes des fausses couches?
Alors, dans la grande majorité des cas, ce sont des causes d'origine génétique, c'est-à-dire ce sont des œufs qui ne peuvent pas poursuivre, qui ne sont pas viables et qui s'arrêtent. C'est une forme de limitation, effectivement. Ce sont des grossesses qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Il y a quasiment pas d'autres raisons, enfin, où c'est très, très minime comme en quantité. Donc, ce sont essentiellement des œufs qui ne sont pas de bonne qualité, si on peut dire, et qui ne peuvent pas se poursuivre.
À l'aune de votre expérience, que faire après une fausse couche? Comment on fait pour avancer après cet événement traumatique, Elisa Rigoulet?
Alors là, je pense que ça dépend de chaque femme. Enfin, encore une fois, c'est tellement personnel. Je pense que c'est ça qui est important. Enfin, c'est une expérience très singulière, c'est personnel. Chaque femme a un besoin différent par rapport à ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on est peu accompagné encore aujourd'hui sur justement les chemins qu'il faut prendre. Et nous, dans notre livre, on a notamment interviewé une psychologue qui est spécialisée dans les suivis de fausses couches, donc fausses couches précoce, mais fausse couche beaucoup plus tardive, enfin mort in utero, donc ça c'est encore un autre sujet. Mais elle disait que justement, je trouve quelque chose d'intéressant, elle disait ça dépend véritablement de la représentation que la femme se fait de cette grossesse. Mmh. Voilà. Et ça c'est différent à 2 semaines ou à 8 mois, c'est pas la même chose sur les femmes.
Et ça dépend beaucoup aussi à quel moment se situe cette fausse couche. C'est-à-dire, une femme qui a déjà eu une grossesse, qui a été menée à terme, ne vit pas la même chose qu'une femme qui n'a pas eu encore de grossesse. Et donc, la fausse couche, ça, ce que ça met en cause, c'est la possibilité d'être enceinte et le doute sur ses capacités à être enceinte. Parce que les femmes, comme dans beaucoup, beaucoup de domaines, elles ont toujours cette crainte de ne pas pouvoir, de ne pas y arriver. Et cette fausse couche, ça réactive terriblement cela.
Alors Céline nous dit « Je suis enceinte et beaucoup de gens se permettent de toucher mon ventre sans préavis. Je ne comprends pas ce réflexe absurde et je n'aime pas ça du tout. C'est très compliqué de réagir dans l'instant. Pour moi, c'est un comportement sexiste. Le corps de la femme devient tout à coup un bien commun et je ne sais pas pourquoi. Comment réagir d'après vous, docteur Hassoun ?»
Effectivement, en fait, c'est une intrusion incroyable de toucher un corps sans lui demander d'abord. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les femmes enceintes, c'est vrai pour les hommes également. On ne touche pas un corps sans lui demander. Moi, quand j'examine une patiente, je lui dis « Est-ce que vous êtes OK que je vous examine ?» C'est pareil. Hein. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison de toucher comme ça les femmes enceintes. Elles n'appartiennent pas à tout le monde.
Pilantika.
Oui, en fait, je pense que souvent on oublie qu'il y a une personne derrière cette femme enceinte et il n'y a pas juste une femme enceinte dans le monde. Il y a plusieurs femmes enceintes et il y a des femmes qui veulent pas qu'on touche le ventre. Il y a des femmes, c'est pas dérangeant, mais il faut toujours, en fait, ce qui est dérangeant dans cette histoire, c'est que en fait on oublie justement l'individu derrière. Et voilà.
Dorothée nous dit « Je viens d'accoucher il y a 3 semaines. Je déteste être enceinte. Pour moi, c'est pas du tout agréable. Mais quand je le dis ouvertement, je sens que ce n'est pas toujours accepté, bien accepté socialement, comme si la société s'attendait à ce que je sois ravie de ma grossesse. Par ailleurs, j'adore mes enfants que je désirais, mais j'ai l'impression qu'il faut tout aimer de la conception à l'accouchement. »
Élisa Rigoulet.
Oui, oui, c'est vrai. Il y a une injonction au bonheur qui est très claire par rapport à la grossesse. Je pense que c'est aussi lié à un phénomène qui est que c'est aussi, il y a une sorte de magie autour de la grossesse. Il y a un phénomène magique, le phénomène magique de la conception, de concevoir un enfant. Voilà. Donc tout ça est très merveilleux. Et donc effectivement, par extension, il faudrait que les femmes soient absolument ravies de cet état, absolument ébahies. Voilà, ce qui est complètement faux. Enfin, alors, encore une fois, qui dépend encore beaucoup des femmes et qui est bien plus complexe que ça, en fait.
Alors, le troisième mois de grossesse, c'est le temps de la première échographie dite de morphologie embryonnaire entre le neuvième et la onzième, la neuvième et la onzième semaine de grossesse. Qu'est-ce qu'on attend de cette première rencontre, de cette première échographie, Élisa Rigoulet?
Qu'est-ce qu'on attend en tant que
c'est un moment
en tant
libérateur,
parent, dire,
oui, en tant que parent, oui. C'est libérateur.
Oui, je pense que, alors encore une fois, c'est personnel, son expérience à moi, mais oui, enfin, c'est libérateur. Encore une fois, parce que on est dans une société où en fait, on considère que une grossesse, que les risques sont plus importants pendant ces trois premiers mois, les risques de fausse couche justement, et que donc du coup, il y a quelque chose aussi qui est sociétal, qui est que en fait, on n'annonce pas vraiment sa grossesse avant ces trois mois, on garde un peu ça pour soi, etc. On, voilà, on joue le jeu et qu'il y a quelque chose de libératoire parce qu'il y a quelque chose de libérateur, pardon, parce qu'il y a quelque chose aussi libérateur, je crois, par rapport à la parole. Parce que c'est comme si cette échographie, elle rendait possible le fait de pouvoir dire « je suis enceinte ».
Comment se passe cette première échographie, docteur Daniel?
Alors, c'est vrai que c'est une première échographie importante parce que d'abord, effectivement, à partir de cette échographie, le risque de fausse couche est faible, plus que faible même. Donc ça rassure sur cette grossesse qui normalement devrait aller jusqu'à terme. Le deuxième élément, c'est un élément morphologique, effectivement. Ça aide au diagnostic et au dépistage en particulier d'anomalies génétiques, dont la trisomie 21. Donc, elle est effectivement très importante dans ce rôle-là. Je voudrais rajouter par rapport à la question précédente. On est dans une société où les grossesses sont prévues et désirées. Alors, plutôt, globalement, ce n'est pas vrai de toutes les grossesses, mais globalement, c'est ça. Donc, du coup, on attend qu'elle soit idyllique. Eh bien, non. C'est pas parce qu'une grossesse est prévue et désirée qu'elle est idyllique.
Allez, il est temps de retrouver la chronique de notre cher Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, vous vous intéressez aux privatisations.
Oui, un sujet idéal pour les futures mamans. Les mamans sont plus que concernées, mon cher Ali. Elles imaginent très bien de quoi on parle, elles, dont on va privatiser pendant 9 mois une partie de l'abdomen. Même si c'est vrai, dans le cas du futur bébé, la privatisation en question fait davantage penser à la piste encombrée d'un bar karaoké qu'à la cession de titres ADP. Et ça, c'est un autre problème. Les privatisations, celles dont on va parler dans cette chronique, concernent bien la vente des biens de l'État. Depuis la grande crise financière de 2008, elles étaient un peu sorties de notre champ de vision. Mais les mille gilets jaunes les ont replacés sur le devant de la scène en carbonisant quelques péages autoroutiers. 15 ans après la cession de nos autoroutes nationales à des entreprises privées, ces ventes passent toujours aussi mal. Et l'affront d'une partie des élus franciliens contre la future privatisation des 3 aéroports de l'agglomération parisienne vient en donner une nouvelle illustration. 218 parlementaires viennent même de signer un texte contre la privatisation de ce groupe ADP, ouvrant pour la toute première fois la voie vers l'organisation d'un référendum d'initiative partagée avec les citoyens. Roissy, nous explique l'écrivain Aurélien Bélanger, ce grand brûleur à oxygène, cette garenne au terrier transformée en tuyère et inondée de kérosène, sera cédée bientôt à l'unique prédateur connu des États, une multinationale quelconque, et ce sera comme si la France, respectable long courrier des nations, tombait dans un interminable trou d'air.
Alors pourquoi ces privatisations causent-elles tant de remous ?
Parce que pour beaucoup de Français, vendre ses actions reviendrait en quelque sorte à brader les bijoux de famille, à dilapider un patrimoine acquis par les générations précédentes pour payer les dépenses courantes. Hormis la condamnation morale de ce choix de facilité, l'argument de l'intérêt bien compris est également avancé. En vendant ses participations dans certaines entreprises, comme Aéroports de Paris ou la Française des Jeux, l'État se prive à terme de confortables dividendes. De ce point de vue, le précédent de la privatisation des autoroutes a profondément marqué les esprits. Mais surtout dans le contexte actuel, les privatisations sont vues, comme l'explique le politologue Jérôme Fourquet, comme le démantèlement d'une armature structurante pour le territoire, une armature héritée de l'histoire, alors même que la société française connaît un processus de fragmentation sans précédent. Alors quel rapport, me direz-vous, avec la grossesse?
Oui.
Maigre, je conçois le rapport. Sauf à lire peut-être les derniers vers de la fable de La Fontaine, La poule aux œufs d'or, que nous reproduisons in extenso dans ce numéro. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches, pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu, qui du soir au matin sont pauvres devenus, pour vouloir trop tôt être riche.
Privatisation, la grande braderie, c'est le thème cette semaine à la une de l'hebdomadaire Le 1, à retrouver en kiosque et en librairie, et bravo pour le succès du premier numéro de Zadig. Julien Bisson, ça fait partie de la galaxie America, Le 1, etc. Bravo donc. Allez, dites-nous quelles sont les idées reçues qui vous agacent le plus sur la grossesse. 01 45 24 7000.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant, je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous, vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne, je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant, je deviens con, que tout petit tellement je suis un grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux, c'est pas ma vie, j'ai pas envie. Est-ce que je suis ce vieux gris tout ridicule?
Grand petit con.
La grossesse, c'est comme je cherche une image poétique.
Grand bien vous fasse.
La grossesse, c'est comme une gastro qui dure 9 mois.
Sur France Inter.
11h moins le quart et on s'intéresse ce matin à quelques idées reçues sur la grossesse.
J'imagine que ça doit être les montagnes russes à la maison en ce moment.
Non.
Ah, bah vous avez de la chance.
Oui.
Vous voulez que je vous dise?
Non. Non.
Vous craquerez comme tout le monde.
Non, pas nous. On va attendre.
Une préférence?
Un garçon. On avait dit un garçon.
T'avais dit un garçon? Moi, je veux une fille.
Garçon.
Extrait de la série Plan cœur sur Netflix. Alors, Elisa Rigoulet, Pila Intika, dans votre livre, vous posez la question de la préférence fille ou garçon. En quoi serait-ce un danger de préférer l'un ou l'autre? Elisa Rigoulet.
Alors, c'est pas un danger, c'est pas, on a le droit, encore une fois, de préférer ce qu'on veut, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on interroge, en fait, moi d'ailleurs, à 5 mois, j'ai voulu savoir le sexe de mon futur enfant, donc voilà. Mais on interroge, en fait, la question de la préférence fille-garçon, parce qu'il y a des gens qui ont des avis très tranchés sur la question, je veux une fille, ou je veux un garçon. Et en fait, la question qui se pose, c'est que, en fait, si préférence il y a, c'est parce qu'il y a déjà une construction imaginaire genrée. C'est-à-dire que si tu préfères avoir un garçon 100%, c'est parce que tu imagines qu'un garçon, c'est ça. Et donc déjà, ça pose la question en fait, de la construction de genre, qui est une interrogation qui n'a pas une place centrale dans la grossesse, mais qui en tout cas peut en avoir une à ce moment-là. Ouais.
Julien Bisson.
Oui, je trouve que c'est en effet une question très importante parce que ça permet, ça pousse aussi les futurs parents à se projeter et à investir un enfant qui n'est pas encore né de qualités ou de défauts qui n'a pas encore. Donc c'est vrai que c'est une question très compliquée. Moi je comprends tout à fait. Moi aussi j'avais voulu savoir. Je voulais une fille, c'était un garçon et j'en suis très heureux. Mais c'est vrai que ça implique voilà de l'investissement genré comme vous le dites qui peut-être problématique. Ouais.
Le troisième mois, c'est souvent le moment de l'annonce à l'entourage. Vous pensez quoi de ces photos d'échographie envoyées par mail ou SMS Pila Indica?
Alors encore une fois, chacun son choix que tout le monde peut faire.
Vous êtes un peu ironique dans votre livre.
Oui, c'est juste pour. En fait, nous dans ce livre, on voulait juste, enfin questionner un peu ces choix-là pour dire est-ce qu'il y aurait d'autres options et voilà. Enfin après la photo d'échographie, enfin c'est pour les gens qui n'ont pas eu un enfant ou quand c'est pas ton enfant ou ton fœtus, en fait. Ça reste une photo assez banale en fait, mais après encore une fois, si ça rend quelqu'un heureux de annoncer la grossesse comme ça, allez-y. Hein.
Est-ce que c'est une idée reçue l'idée que c'est au troisième mois qu'on assiste à un ascenseur émotionnel avec en ligne de mire les hormones, Daniel Assoun?
Non, pas vraiment. En fait, c'est depuis le début de la grossesse. Dès le démarrage de la grossesse, il y a effectivement d'abord des bouleversements hormonaux évidents et des modifications et du corps et de ce qui se passe dans la tête. Alors, pour reprendre l'échographie, moi, je suis une génération j'ai commencé ma carrière d'obstétricien sans l'échographie. Et moi-même, pour mon premier enfant, par exemple, je n'ai pas eu d'échographie. Et pour mon deuxième enfant, je n'ai pas souhaité savoir. Mais c'est un phénomène maintenant absolument incontournable. C'est une question évidemment que je ne pose jamais. Hein. Ce que vous voulez plutôt un garçon ou une fille, ça ne me viendrait même pas à l'idée de la poser. Mais
sur le rôle des hormones, oui. Quel est le rôle exact de la progestérone d'un point de vue physique et biologique?
La progestérone, c'est l'hormone qui est sécrétée par l'ovaire après la fécondation et qui en fait empêche par exemple les contractions de l'utérus. Alors l'effet que ça peut faire, si c'est votre question par rapport à ce qui passe dans la tête, c'est un peu difficile de savoir, d'autant plus que les femmes vivent des grossesses extraordinairement différentes. Hein. On parlait d'angoisse pour certaines, de totale tranquillité pour d'autres. Donc, il y a des modifications physiques, il y a probablement des modifications psychologiques, mais je ne crois pas qu'on puisse établir comme ça des normes ou dire c'est la progestérone qui donne ça, ça et ça.
J'ai souvent entendu cette phrase-là, une femme enceinte qui pleure subitement sans raison apparente, et j'ai entendu dire « ah mais c'est les hormones, c'est normal ». Ils ont rigolé, on entend souvent ça.
Oui, mais parce que ça, les hormones, ça devient un fourre-tout complet, ouais. Surtout, enfin, exclusivement d'ailleurs quand il s'agit des femmes, enfin, et pas que en période de grossesse.
Oui, c'est la représentation.
C'est la représentation des femmes. Les hormones avec les
c'est
femmes.
La représentation des femmes fragiles, voilà. Qui sont sensibles, elles, contrairement aux hommes, voilà. Comme si les hommes
n'ont pas d'hormones.
Pas, elles sensibles, n'ont pas d'hormones, alors qu'ils en ont quand même quelques-unes.
Quelques-unes, oui.
Donc c'est absolument la représentation. Alors là, vraiment, des femmes. Voilà, qui sont un peu des inférieurs quand même, là, dans ce domaine-là.
Hélène nous dit...
Elle ne maîtrise pas, quoi.
Hélène nous dit sur notre page Facebook, j'ai fait un test de grossesse positif ce matin, je tombe sur votre émission, je suis très heureuse, c'est une deuxième grossesse à 39 ans, je croise les doigts pour la mener à terme. Une auditrice nous dit, enceinte pour la deuxième fois, à peine à 3 mois de grossesse, j'ai déjà pas mal d'avis et de réflexions sur comment vivre cette grossesse, je devrais arrêter le café, tu es sûre que tu veux faire du vélo? Je suis allée faire du snowboard à même pas un mois de grossesse, plusieurs personnes ont voulu m'en dissuader, et puis... Coralie nous dit, la phrase la plus entendue, c'est « tu verras, tu ne prends pas trop de poids maintenant, mais dès que tu seras en arrêt, tu verras. Tu verras, quand il bouge la première fois, ça fait comme des bulles. Ben non, pour moi, c'est comme s'il tapait à la porte. Chaque grossesse est différente, chaque sensation aussi. Il faut savoir faire le tri, un gros tri dans les conseils reçus. » Bonjour Gabrielle.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes sage-femme et vous appelez depuis Clermont-Ferrand.
Oui, j'appelle Clermont-Ferrand parce qu'évidemment, j'ai un intérêt tout particulier par votre émission, même si je vous écoute très régulièrement. Je voulais simplement partager avec vous que j'accompagne les patientes au quotidien depuis maintenant deux dizaines d'années. Et effectivement, c'est toujours pour moi une source d'étonnement extrême parce que la grossesse, effectivement, a ce paradoxe d'être à la fois un événement banal à l'échelle du groupe et majeur dans la vie d'une personne. La patiente va éprouver de profonds remaniements à la fois physiques et psychiques. Et une patiente au sein de la même grossesse va traverser des moments très différents. Et même au cours de notre vie, nous aurons toutes des grossesses différentes. Et c'est usant pour moi au quotidien, effectivement, de voir que l'autre, systématiquement, parce qu'il a eu un enfant, une grossesse, va se permettre d'abreuver nos femmes de poncifs absurdes, voire des fois presque malveillants, j'ai envie de dire, dans la mesure où ça va la renforcer dans ces moments de vulnérabilité. Et je crois que vraiment, il faut absolument citer cette ingérence permanente auprès de nos femmes, qui sont aussi différentes que multiples. Et pour certaines, oui, ça va être un épanouissement. J'entendais vos intervenants parler de voyage, etc. Et c'est effectivement extraordinaire pour elles. Et d'autres vont vraiment présenter des grossesses très difficiles, avoir... et ça, j'en profite quand même pour le dire, parce que c'est une source de souffrance. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore à l'heure actuelle particulièrement maltraitées sur leur lieu de travail quand elles annoncent leur grossesse, pour lesquels on n'aménage absolument pas leur travail, en justement leur renvoyant que c'est absolument pas une pathologie, et pour lesquels c'est une source de souffrance et même d'angoisse au quotidien. Donc j'en profite du coup pour signifier aux gens qui nous écoutent qu'une patiente enceinte, eh bien, elle n'a pas besoin d'ingérence, elle a besoin plutôt d'écoute empathique, de soutien et surtout de rester. Et je pense que la vie est courte, il faut absolument respecter les différences de chacun et pas se positionner comme un obstétricien, une sage-femme ou après un pédiatre ou un éducateur spécialisé. Les patients sont en permanence culpabilisés par rapport à leur choix d'allaiter, de pas allaiter, d'accoucher avec une péri ou pas. Et j'ai envie de dire, respectons chacune d'entre elles dans leur unicité. Voilà.
Merci.
Donc, les femmes, nous ne sommes pas... Oui, je finis. Nous ne sommes pas fragiles. Je crois qu'il faut surtout gardons la confiance en nous. Et on peut être fier de ce qu'on accomplit, accessoirement, avoir des enfants, travailler et les élever. Voilà.
Merci pour votre joli témoignage de sage-femme, une profession essentielle tout au long de la grossesse. Bonjour Isabelle, bienvenue. Vous appelez de La Réunion.
Oui, bonjour. Oui, moi je voulais témoigner parce que j'ai quand même 58 ans, je suis grand-mère d'une petite fille.
Et
donc j'ai trois enfants, ma fille est née à 31 ans, le dernier à 21 ans, j'ai une fille de 27 ans comme cadette. Et voilà, et moi donc j'ai accouché en 88 et moi je n'écoutais personne, je n'ai lu aucun livre. Avec mon conjoint, on a vraiment fait comme on avait envie de le faire. Et bon, j'ai pas allaité, par exemple, j'ai voulu une péridurale, tout le temps, toute ma grossesse, pas pendant tout le temps de ma grossesse, mais au début, j'ai continué à monter à cheval, j'ai fait de la danse jusqu'à 6 mois, je suis allée en Afrique, vraiment, j'ai fait tout ce qu'à l'époque, on nous déconseillait fortement de faire.
Et tout va bien. Voilà.
Et tout s'est très bien passé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grossesses vraiment très faciles, des bébés très faciles après. Qui peut-être ont senti aussi que j'aimais pas beaucoup être enceinte, donc ils sont arrivés en plus avec de l'avance, un peu, mais en parfaite santé. Donc franchement, je pense qu'il faut que les femmes arrêtent de se focaliser sur ce que les gens disent. Il faut qu'elles fassent comme elles le sentent. Voilà, c'est tout. Et puis, ah oui, aussi, je voulais dire que j'avais quand même eu 3 grossesses donc à terme. Et j'ai fait aussi 2 avortements sur stérilé. Un à 20 ans et un à 42 ans. Donc, et ça n'a pas empêché, bon, surtout le premier à 20 ans, ça m'a pas empêché d'avoir 3 enfants par la suite. Hein, donc aussi, il ne faut pas que les femmes aient peur de ça. Voilà.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé depuis la Réunion. Alors, Pila Intika, comment s'est passé pour vous ce 6e mois de grossesse du point de vue de la libido? Il y a quelques pages dans votre ouvrage avec une question centrale. Est-ce que la grossesse change fondamentalement la vie sexuelle du couple?
Bah, je pense que déjà c'est une question très personnelle.
Vous mais, en parlez dans votre livre,
oui,
hein,
oui,
Pila Intika.
Ça, c'est vrai. mais effectivement, en fait, enfin, dans le récit dans notre livre, je parle justement du fait que on a peur souvent avec les rapports sexuels, on a peur de faire mal au fœtus. On se demande si avec la pénétration, il y a un moyen de faire mal ou si on peut avoir une fausse couche à cause du sexe, etc. Oui, effectivement, enfin. Après, libido, ça peut complètement changer, mais pas que le libido de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, on parle très peu en fait des conjoints, enfin des futurs pères en fait, et que eux aussi ils peuvent avoir un changement dans la vie sexuelle. Après, c'est aussi, enfin, il faut savoir, la grossesse, ça fait quand même, c'est un bouleversement pour les deux personnes, pour les deux futurs parents, et du coup, bien évidemment, ça. Il y a des changements qui peuvent arriver et c'est tout à fait normal. Enfin, il faut pas se dire que c'est quelque chose d'étrange, que je devrais conduire ma vie sexuelle comme avant. C'est tout à fait normal d'avoir des changements de libido, etc. Voilà.
On n'a pas le temps de parler de l'accouchement. Vous reviendrez pour en parler, pour parler spécifiquement des idées reçues sur l'accouchement. Mais qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé, vous le dites à la fin de votre livre, Isari Goulet, lors de l'arrivée de votre fils? Vous avez parlé de rencontres amoureuses.
Ah oui. Je crois qu'on s'imagine pas vraiment, en fait, ben on peut pas savoir d'ailleurs ce que c'est de mettre au monde un enfant avant de le faire. Mais c'est vrai que moi je m'étais beaucoup focalisée en fait sur justement, je m'étais beaucoup posé de questions, puis on travaillait sur ce livre, donc je m'étais beaucoup travaillé sur l'aspect biologique de ce qui allait m'arriver, etc., l'accouchement, et je n'avais pas pensé au bouleversement émotionnel qui est quand même assez puissant à l'arrivée d'un enfant dans sa vie. Ouais.
Merci à toutes. Merci Elisa Rigoulet et Pila Intika. Le guide féministe de la grossesse est publié chez Marabout. Merci docteur Daniel Assoun d'être venu. Merci pour votre éclairage et merci évidemment à Julien Bisson. Demain, comment ne pas se faire arnaquer en achetant bio? Faites-vous confiance au bio? Avez-vous peur de certaines dérives? Dans quel type de magasin achetez-vous vos produits bio? Doit-on forcément tourner le dos aux grandes surfaces? Comment faire les bons choix? 01 45 24 7000. Sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Combien vous fasse. À la technique ce matin, Rémi Sistiaga et Pauline Laverdure. À suivre, Nagui.